Vous écoutez, on lit pour vous.
Aveugle depuis plus de 6 ans, un long processus vers le retour à l'épanouissement. Un texte de Catherine Bouchard, paru le 9 février 2025 dans TVA Nouvelles. Une femme, qui a perdu la vue du jour au lendemain, raconte comment elle a vécu sa réadaptation, à commencer par le désir énorme de mourir pour aujourd'hui s'épanouir à nouveau, en s'impliquant notamment dans la cause des personnes non-voyantes. La vie de Martine Bédard a basculé du jour au lendemain, en octobre 2018, quand elle est devenue aveugle à 100%. Sans raison apparente, son système immunitaire a cessé de fonctionner. Il n'y a pas eu de déclencheur. On ne sait pas pourquoi, explique-t-elle. La situation a fait en sorte que son corps n'a plus émis de pression dans ses yeux. Elle compare sa situation à l'inverse du glaucome. Elle a été hospitalisée plusieurs semaines. « Je suis sortie avec un handicap visuel total. Je n'ai aucune perception lumineuse. Depuis, je suis dans le noir total 24 heures sur 24 », raconte-t-elle. Madame Bédard avait 50 ans à ce moment. Elle travaillait comme gestionnaire en finance. J'ai voyagé pour le travail. J'avais ma maison et ma voiture. Mon conjoint et moi, nous occupions l'un de l'autre. J'avais mon fils, une vie remplie. J'étais extrêmement active de toutes les façons. Et du jour au lendemain, la vie s'arrête, raconte-t-elle. C'est dévastateur. À sa sortie de l'hôpital, elle est retournée chez elle. Quand les gens perdent un membre, ils vont en réadaptation tout de suite. Moi, j'ai perdu mes yeux et on m'a retourné chez moi, poursuit Madame Bédard. Son mari n'était pas outillé pour l'aider et sa banque de congés était épuisée. Elle a donc passé des journées entières à attendre qu'on l'aide. Je me suis retrouvée chez nous toute seule, avec aucune formation. J'étais dans le noir total. J'ai passé 6 mois assis dans mon coin, en petite boule, à attendre la mort, la vouloir et la désirer énormément, à tous les instants de la journée pendant 6 mois, confie-t-elle. La bénédiction des livres audio. Passionnée de lecture, c'est l'arrivée des livres audio dans son quotidien qui lui a permis de retrouver un certain goût à la vie. Ça a été une délivrance. J'étais capable de faire quelque chose. Avec de l'aide, je me suis épanouie, poursuit Madame Bédard. En un peu plus d'un an, elle a retrouvé la capacité de cuisiner, de faire du ménage, d'utiliser son téléphone, d'envoyer et recevoir des courriels et de prendre l'air dans son quartier. Elle pèlte même la neige de son entrée. Je suis impliquée dans ma communauté. Je veux faire partie d'une solution plus grande que moi, souligne-t-elle. Elle agit notamment à titre de vice-présidente du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, RAAQ, et comme responsable du dossier réadaptation. En pleine semaine de la Canne Blanche, qui se termine ce samedi, le RAAQ met en lumière des histoires comme celle de Madame Bédard avec le projet « Histoire de réadapt ». Il s'agit d'une série de capsules audio qui relate les obstacles rencontrés par des personnes handicapées visuelles lors de leur processus de réadaptation. Ces capsules sont accessibles sur la chaîne YouTube du RAAQ. C'était « Aveugle depuis plus de 6 ans, un long processus vers le retour à l'épanouissement », un texte de Catherine Bouchard paru le 9 février 2025 dans TVA Nouvelles.
S'améliorer ici en s'inspirant d'ailleurs. Un texte de Vincent Larrain paru le 13 février 2025 dans la presse. Comment rendre l'enseignement du français passionnant? Comment utiliser l'intelligence artificielle pour corriger des examens? Ou comment les élèves aux besoins particuliers apprennent-ils le mieux? Voilà des sujets que l'Institut national d'excellence en éducation, INEE, sera appelé à documenter, et ce, dès l'été prochain. L'organisme va chercher à recenser ce qui se fait, ce qui est le plus efficace dans l'enseignement contemporain, explique le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, en entrevue avec la presse. La mise en place de cet institut créé dans le cadre de la plus récente réforme de l'éducation du gouvernement Legault, adoptée en décembre 2023, était restée au point mort jusqu'ici. Enfin, elle débloque. L'Institut sera chargé de recenser les meilleures pratiques en éducation à travers le monde, puis de les synthétiser afin de produire des formations destinées aux enseignants. Un appel de candidature sera lancé afin de dénicher son futur PDG, un candidat qui devra posséder une expérience terrain, souligne Bernard Drainville. Même si ce dirigeant sera ultimement choisi par le ministre, ce dernier assure que l'INEE disposera d'indépendance et d'autonomie dans sa tâche. Suivront cet hiver la sélection des quelques 13 membres du conseil d'administration et la formation de 2 comités. L'un, dit scientifique, sera consacré à produire des synthèses des connaissances scientifiques en matière d'éducation et l'autre, dit consultatif, s'attellera à documenter les meilleures pratiques pour la formation des enseignants. Rester dans le haut du palmarès. Bien qu'il ne nie pas les enjeux en éducation au Québec, Bernard Drainville plaide que, selon les tests internationaux PISA, nos écoles forment des élèves qui obtiennent d'excellents résultats, que ce soit en sciences, en lecture ou en mathématiques. Mais il faut s'assurer justement de maintenir ce niveau d'excellence. Et pour le maintenir, il faut que nos enseignants aient accès à ce qui se fait de mieux en enseignement dans le monde, poursuit-il. Avec la pandémie et l'apparition de l'intelligence artificielle, les élèves d'il y a 20 ans et les élèves d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes élèves. Et donc, il faut adapter l'enseignement aux conditions d'aujourd'hui, dit-il. L'INEE ne serait toutefois pas appelée à se prononcer sur des enjeux en dehors de la classe, par exemple sur l'interdiction du cellulaire à l'école, un débat qui a cours dans le contexte où des parlementaires étudient les effets des écrans sur les jeunes. Dans les cartons depuis longtemps. Québec ne réinvente pas la route. Plusieurs pays à travers le monde ont déjà mis en place de tels instituts, dont le Royaume-Uni en 2011, la Finlande en 2013 et l'Australie en 2021. Plus près de chez nous, l'Ontario se fie à son Office de la qualité et de la responsabilité en éducation depuis 1996, ce qui a aidé à y rehausser la réussite scolaire, soulignait le professeur et directeur du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Julien Prudhomme. Et l'idée était dans l'air au Québec depuis plusieurs années. Déjà, en 2017, le ministre de l'Éducation libérale Sébastien Proulx annonçait la formation d'un groupe de travail dont le mandat était justement de créer un Institut national d'excellence en éducation. Son rapport, qui en recommandait la création, avait toutefois été rendu en 2018, une année électorale, et n'avait pas eu de suite. Il recommandait tout de même que le futur institut n'ait pas le mandat d'uniformiser les pratiques ou de se positionner idéologiquement au regard des multiples approches en éducation ou des modes de gestion des écoles. En effet, l'idée de créer un tel institut s'est butée par le passé à l'opposition des syndicats d'enseignants, qui craignent qu'ils nuisent à l'autonomie professionnelle de leurs membres et ne répondent pas à leurs besoins réels. C'était « S'améliorer ici en s'inspirant d'ailleurs », un texte de Vincent Larrain paru le 13 février 2025 dans la presse.
Aîné, parlons de fraude, d'aide médicale à mourir et de sexe sans tabou. Un texte de Rosemée Autonne-Témorin paru le 22 janvier 2025 dans la presse. Une série balado destinée aux aînés vient d'être lancée par le Centre d'action bénévole du Rivage. 6 épisodes d'environ 30 minutes abordent autant de sujets à travers des témoignages et des échanges entre experts et bénévoles passionnés. L'instigatrice du projet, l'animatrice du balado « Questions d'aînés », Nathalie Robert, indique qu'un des objectifs de la série est de faire découvrir cette façon de consommer des contenus à cette tranche de la population. Citation : Mon père m'expliquait comment il trouvait sa place à la télé. Je lui ai suggéré d'écouter un balado. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il est allé chercher sa tablette. On a exploré ensemble, on est allé dans toutes les avenues. Depuis ce temps-là, mon père, qui a 84 ans, écoute des balados. C'est de là que l'idée est venue. C'est facile d'accès. Aujourd'hui, les aînés ont tous des tablettes, des téléphones, des ordinateurs. Ça s'écoute sur n'importe quel support. Ça peut voyager plus qu'on pense. Fin de citation. Le premier épisode explore le sujet de la coopération internationale avec Yves Simard et Monique Flamand, qui œuvrent dans ce domaine depuis de nombreuses années. Raymond Cloutier et Claudette Allary discuteront d'implications communautaires dans le deuxième épisode. Des personnes ressources se joignent aux bénévoles pour certains épisodes, comme pour celui consacré à la fraude chez les aînés, avec l'agente aux relations publiques à la police de Trois-Rivières, Stéphanie Côté. La conseillère municipale Pascale Albert-Nelahaye participe à un épisode en sa qualité de sexologue psychothérapeute. Elle traite du sujet possiblement le plus tabou de la série, l'amour et la sexualité chez les aînés. Un autre sujet délicat est abordé avec l'étudiante au doctorat en psychologie Gabrielle Dubuc, qui discute d'aide médicale à mourir et de soins palliatifs. Enfin, le notaire Louis Paquin répond aux questions que les aînés se posent en matière de testament et de mandat. Citation : On part de l'amour et de la sexualité à l'aide médicale à mourir. Ce sont vraiment des sujets qui touchent les aînés, mais éventuellement, ça nous touche tous. La fraude chez les aînés, c'est plus ciblé. On va parler de la fraude des grands-parents et de la fraude, que ce soit par rapport à des commandes sur Internet. La policière nous a donné des conseils. Fin de citation. Tout le processus de création s'est révélé une belle expérience pour tous les bénévoles impliqués. Citation : C'était leurs questions à eux, leurs interrogations. On a eu des rencontres préparatoires et l'enregistrement, ça a été le fun de leur faire vivre ça. Fin de citation. La série « Questions d'aînés » est disponible sur les principales plateformes de diffusion comme Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Podcast ainsi que sur le site de la Gazette de la Mauricie qui a réalisé la série. Le programme « Nouveaux horizons pour les aînés » du gouvernement du Canada a contribué à ce que le projet voit le jour. L'équipe souhaiterait présenter une deuxième saison. Les sujets ne manquent pas. Citation : C'est vaste. On n'a même pas parlé d'alimentation, d'activité physique, de loisirs, de retraite. Il pourrait y en avoir bien d'autres. Fin de citation. C'était « Aînés, parlons de fraude, d'aide médicale à mourir et de sexe sans tabou », un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 22 janvier 2025 dans La Presse.
L'intemporel Télébingo. Texte de Dany Jacques, paru le 9 février 2025 dans Le Reflet du Lac. Le Télébingo de la Fondation Constance Langlois traverse les époques et récolte annuellement des dizaines de milliers de dollars pour venir en aide aux personnes handicapées. Il vient d'ailleurs de célébrer ses 35 ans de diffusion à Nous TV le 2 février dernier. Un gros lot spécial de 3 500 $ a été remporté par Marco Beauvais. Michel Grondin animait cette édition commémorative où quelques artisans de la première heure se rappelaient des premiers prix de 500 $ en 1990. Rita Bouchard et Christine Roy racontent les premiers pas de cette populaire activité de financement comme si c'était hier. Madame Bouchard, toujours alerte à 101 ans, tient à souligner la contribution de son défunt conjoint, Roger Bouchard, comme bougie d'allumage. Monsieur Bouchard présidait alors le Club Lyon, en plus d'aider Constance Langlois dans ses démarches pour construire un toit pour les handicapés des Fantastiques. Ce sont les fonds amassés par le bingo qui ont permis d'ériger l'actuel bâtiment situé près de l'aréna, témoigne Madame Bouchard. Âgée de 72 ans, Christine Roy poursuit toujours son engagement à Télé-Bingo après 35 ans. Elle distribuait les cartes avec ses deux filles dans les années 1990. Aujourd'hui, elle fait la même démarche, mais avec son conjoint Louis Baillargeon. Ce dernier est impliqué au Télé-Bingo depuis une quinzaine d'années. Notons également la participation d'Yves Grandmaison à titre d'artisan de la première heure. Le Télé-Bingo est diffusé à Nous TV tous les dimanches de 12h30 à 13h. Les cartes sont disponibles dans quelques dépanneurs et commerces de Magog. C'était l'intemporel Télé-Bingo, texte de Danny Jacques, paru le 9 février 2025 dans Le Reflet du Lac.
Action Autisme, 20 ans d'engagement et de nouveaux services inclusifs. Un texte de Charlotte Vuillemin, paru le 10 février 2025 dans Le Manique. Action Autisme Haute-Côte-Nord-Manicouagan célèbre cette année son 20e anniversaire et pour souligner cette nouvelle étape, l'organisme annonce l'adoption d'une nouvelle image de marque ainsi que l'expansion de ses services afin de répondre aux besoins croissants de la communauté. Depuis sa fondation, Action Autisme s'est démarquée par son dévouement à offrir un accompagnement essentiel aux familles touchées par l'autisme. Désormais, l'organisme accueille les autistes adultes et consolide sa présence en Haute-Côte-Nord grâce à l'embauche d'une intervenante locale. Cette démarche vise à offrir un soutien de proximité adapté aux besoins de chacun. Nous souhaitons être un pilier de confiance pour les familles et les personnes autistes, peu importe leur âge. Ce changement d'image illustre notre engagement à accompagner chaque individu dans son parcours, avec des services adaptés et accessibles, explique Isa-Ève Tremblay, coordonnatrice d'Action Autisme. L'organisme lance un service d'aide téléphonique gratuit pour les parents d'enfants autistes, animé par des parents ayant une expérience similaire. Ce service vise à briser l'isolement, offrir un soutien moral et encourager le partage d'expériences. Action Autisme réaffirme ses missions. Offrir un espace d'écoute, des ressources spécialisées et un accompagnement adapté pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches. Les parents désirant s'impliquer bénévolement peuvent contacter l'organisme à coordo@actionautisme.ca. C'était Action Autisme, 20 ans d'engagement et de nouveaux services inclusifs. Un texte de Charlotte Vuillemin, paru le 10 février 2025 dans Le Manique.
Briser les tabous. L'engagement humain et novateur de Samar Mouslimani en ergothérapie. Un texte de Justine Lacoste, paru le 11 février 2025 dans universitédesherbrooke.ca. Samar Mouslimani, ergothérapeute et candidate au doctorat en recherche en sciences de la santé, incarne l'union parfaite entre science et humanité. Avec son approche profondément empathique et innovante, la jeune femme redéfinit la prise en charge des maladies neuromusculaires. Dans un domaine souvent entouré de tabous, son engagement redessine les contours de la réadaptation et illustre une vision où chaque aspect de la vie du patient ou de la patiente compte. Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région où la prévalence des maladies rares est élevée, cette scientifique a été sensibilisée très tôt à des réalités souvent négligées en réadaptation. Sous la direction de la professeure Cynthia Gagnon, directrice scientifique du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle s'est vue proposer pour son projet de maîtrise professionnelle un sujet délicat mais crucial. La sexualité dans le contexte des maladies neuromusculaires. En assistant à des congrès et en travaillant auprès des patients, la professeure Gagnon a réalisé qu'il y avait beaucoup de questions sans réponse. Mais c'est un domaine tellement unique et émergent que ce n'est pas facile d'avoir du financement. Elle a donc décidé de confier le sujet de recherche à des étudiants, explique Samar en relatant la genèse du projet. Samar a vu dans cette proposition la possibilité de se consacrer à une facette oubliée de l'accompagnement thérapeutique, la dignité et l'intimité des patients et patientes. Un guide pour briser les silences. Le projet phare de cette étudiante à la recherche et de ses collègues de classe prend alors la forme d'un guide de pratique destiné aux ergothérapeutes. Celui-ci aborde la sexualité, un sujet souvent ignoré dans les évaluations cliniques des patients et patientes. Je trouvais ça injuste parce que la sexualité, souvent, on pense que les personnes en situation de handicap n'en ont pas, alors que c'est complètement faux. Pour moi, c'était bien important d'aller au fond des choses, explique-t-elle avec conviction. Fruit d'une méthodologie collaborative, ce guide s'appuie sur des entrevues et des groupes de discussion avec des ergothérapeutes et des validations par une sexologue. Les pratiques adaptées à d'autres contextes, comme les blessures médulaires ou l'arthrite, ont été utilisées pour élaborer les premières versions du guide. L'objectif est clair : fournir des outils concrets pour surmonter les barrières qui empêchent de discuter de sexualité en contexte clinique. Cette innovatrice insiste sur l'importance de l'autonomie des patients et patientes. C'est de l'empowerment. Je dis toujours que les patients sont les experts de leurs conditions. Moi, je suis plus une guide, une conseillère. J'aime être capable d'offrir les outils, puis les rendre accessibles. Samar Mouslimani, ergothérapeute et candidate au doctorat en sciences de la santé. Une approche ancrée dans la réalité des patients et patientes. Au-delà de ses recherches, Samar se démarque par sa participation à des conférences pour les patients et patientes et leurs familles. Ces événements sont conçus pour rendre l'information accessible à ceux qui en ont le plus besoin, au-delà des cercles scientifiques. Mes présentations préférées sont celles que j'offre aux personnes atteintes de la maladie et aux familles. C'est ce qui est le plus significatif pour moi, affirme-t-elle. Lors d'une conférence sur la dystrophie myotonique de type 1, Samar a été profondément marqué par le témoignage d'un jeune homme. Ce dernier décrivait la détresse qu'il ressentait en sachant qu'il était relativement apte à accomplir une tâche physiquement, mais qu'il se sentait mentalement bloqué pour la réaliser. Cette maladie, souvent mal comprise, engendre des atteintes non seulement physiques, mais aussi cognitives, parfois qualifiées de handicap invisible. Ces symptômes, comme la difficulté à amorcer des tâches ou à se mettre en action, sont souvent mal interprétés et les personnes touchées peuvent être injustement perçues comme paresseuses ou désintéressées. Ce témoignage poignant souligne à quel point l'incompréhension des symptômes cognitifs peut peser sur la vie des personnes atteintes de la maladie. Ces échanges renforcent sa conviction. Il faut continuer à faire de l'éducation pour éliminer les préjugés et offrir des solutions concrètes. L'ergothérapeute se souvient également d'un moment marquant où un de ses patients s'est tourné vers elle grâce au guide pour lui demander des conseils et découvrir des solutions adaptées à ses besoins en matière de sexualité. On a pu regarder ensemble les différents objets sexuels ou adaptations qui pourraient lui convenir. Il y a des ergothérapeutes qui ne sont pas à l'aise d'aborder la sexualité, et c'est super correct. Mais l'information est disponible, partage-t-elle. Un impact en expansion. Le guide, bientôt traduit en anglais grâce à une subvention d'Héritage Canada, répond à une demande croissante en Amérique du Nord. En parallèle, Samar envisage de développer un outil directement conçu pour les patients et patientes afin de leur permettre de gérer leurs besoins intimes en toute autonomie. Si on veut contribuer à l'amélioration des soins et des services, il faut rendre les produits finaux accessibles, souligne-t-elle. L'Oréal réinvente la beauté, la science féminine à l'honneur. En 2024, Samar a reçu la prestigieuse bourse L'Oréal Canada UNESCO pour les femmes en sciences, une distinction qui célèbre les chercheuses et leurs contributions exceptionnelles. C'était merveilleux d'être reconnue pour une cause aussi importante que la place des femmes, la représentation des femmes en sciences, partage-t-elle avec émotion. Inspirée par ses deux directrices de doctorat qu'elle considère comme des modèles, soit la professeure Cynthia Gagnon de l'Université de Sherbrooke et la professeure Nathalie Billet de l'Université de Montréal, Samar souligne l'importance de relever les défis encore présents, comme l'équité salariale et l'accès au rôle de leadership. Cette reconnaissance met aussi en lumière son travail sur les maladies rares et lui a offert une plateforme pour faire connaître ce domaine. Grâce à l'expertise développée, nous avons pu annoncer que notre CIUS était officiellement le premier à obtenir la désignation de Centre de référence régionale interdisciplinaire pour les soins et la recherche en maladies rares, explique-t-elle fièrement. Cette reconnaissance est une occasion de démontrer que non seulement les femmes peuvent briller dans des domaines complexes comme les sciences, mais aussi qu'il est possible de bâtir des carrières et des expertises au féminin, et ce, dans des spécialités aussi exigeantes que les maladies rares. Une pionnière en ergothérapie et en sciences humaines. Samar Mouslimani représente une nouvelle génération de femmes, médecins et chercheuses, qui repoussent les limites de leur discipline. Par son travail, elle rappelle que l'ergothérapie est bien plus qu'une pratique médicale. C'est un engagement envers l'humain, un pont entre science, dignité et autonomie. Cette démarche l'a d'ailleurs par la suite motivée à poursuivre un doctorat qui lui permet de travailler sur des outils innovants pour répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Son parcours est une source d'inspiration pour les personnes professionnelles et étudiantes qui aspirent à transformer les soins par une vision globale et profondément humaine. Avec des projets toujours plus ambitieux, Samar continue d'élargir les horizons de l'ergothérapie, redéfinissant ce que signifie véritablement soigner. C'était Briser les tabous, l'engagement humain et novateur de Samar Mouslimani en ergothérapie, un texte de Justine Lacoste paru le 11 février 2025 dans universitédesherbrooke.ca.